Merci Tiffen et bon week-end. Deux invités et des fantômes qui s'écrivent, aident à écrire, se traquent et se font même parfois nourrir avec Daniel Sansu et Ryoko Sekiguchi.
La Compagnie des Poètes par Manu Farine.
Et c'est jusqu'à 16h, Daniel Sansu, Ryoko Sekiguchi, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à tous les deux. Des histoires de saison, de cuisine, de littérature, de sérendipité, d'apenstance et de fantômes, et parfois tout ça en même temps. Daniel Sansu, vous signez Journal d'un amateur de fantômes aux éditions La Baconnière. Journal tenu, disons, irrégulièrement mais fermement pendant 7 ans. En compagnie et en quête d'indices de revenants et de revenants en tout genre, hein, notés, traqués, de livres en film, en musique ou en voyage, et portraits en creux d'une obsession, hein, vous qui avez commencé en 2011 par faire paraître le fruit d'une enquête de 10 ans titrée « Fantômes, esprits et autres morts-vivants » chez Corti, suivi d'un roman peuplé d'esprit, suivi d'un tout frais « Vampires, fantômes et apparitions, nouveaux essais de pneumatologie littéraire » paru chez Hermann. Les fantômes, Ryoko Sekiguchi, il vous arrive de les nourrir pour les faire venir en organisant des banquets avec la délicatesse et les saveurs qui leur sont dues. Et il vous arrive par ailleurs d'écrire avec, ou peut-être pour eux, et l'essai titré Nagori que vous signez aujourd'hui chez POL pourrait bien avoir à faire avec eux, puisqu'en plus de mettre des mots sur la notion de saison, il examine cette idée toute japonaise de nostalgie de la saison qui s'achève, autrement dit, quelque chose qui se placerait entre certitude de la fin et promesse de retour. Peu de pop japonaise, hein, comme entrée en matière, pop de saison au titre évocateur. Alors, je ne suis pas tout à fait sûre, hein, pour la traduction de Neige de Nagori, pour le reste, je m'en remets à vous. Ryoko Sekiguchi, qu'est-ce que ce serait que la neige de Nagori?
Alors, la neige de Nagori, donc c'est la neige de, enfin, la dernière neige, hein, donc presque, donc qui arrive à l'arrivée du printemps. Donc c'est un peu ça que parle dans cette chanson, donc qui est des chansons de la chanson des années 70, mais dont on se souvient encore aujourd'hui, parce que ce qui est assez étrange, c'est le printemps pour nous, c'est aussi la saison de séparation. Parce que comme c'est la rentrée scolaire, donc c'est la nouvelle année, et bien sûr, donc qu'il y a aussi la séparation. Et en fait, ce que je trouve assez donc joli, par exemple, dans cette chanson, c'est que bon, la séparation est suggérée, on sent que la fille va partir, donc c'est la dernière neige que qu'elle voit à Tokyo. Et à la fin, elle dit, mais avec l'arrivée de printemps, tu es plus belle que l'année dernière.
Alors Nagori, Ryoko Sekiguchi, c'est aussi le titre, hein, de l'essai que vous signez chez POL, un essai qui met en mots et en émotion la notion de saison, et avec elle examine ce qu'on appelle donc le Nagori. D'abord, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle d'une émotion? Est-ce qu'on parle d'une culture? Est-ce qu'on parle d'une théorie?
Alors, D'abord Nagori, donc comme vous avez dit, c'est la saison qui vient de nous quitter. Et plus, enfin concrètement, donc pour vous donner une idée, c'est plus, vous savez, le coucher de soleil de dernier jour de vacances d'été.
Je vois très bien.
Oui, oui, je voyais par exemple, c'est l'année dernière quand j'écrivais ce livre, c'était pendant l'été. Et je regardais par exemple Facebook, genre enfin 15, 16 août, tout le monde poste la photo de coucher de soleil en disant que ah demain je pars. Et en fait c'est cette sensation, ce sentiment là, si vous voulez ressentir Nagori.
C'est un sentiment qu'on peut trouver ailleurs qu'au Japon, formulé autrement.
Ben, je pense que justement, les Français peuvent ressentir tout à fait le Nagori. Simplement, vous n'avez pas, je pense, le mot pour le dire.
Est-ce que vous voulez bien nous faire un petit bout de lecture pour qu'on se rende mieux compte de ces derniers rayons du coucher de soleil,
dont Nagori, attachement, nostalgie et temporalité se mêlent. Nagori évoque à la fois une nostalgie de notre part pour une chose qui nous quitte et que nous quittons, et la notion de quelque chose qui décale légèrement la saison, comme si cette chose même, par exemple des fleurs, la neige, ne quittait qu'à regret ce monde et la saison qui est la sienne. C'est à la fois la chose et la personne qui la contemple qui sont dans le reflet du départ. L'étymologie du mot se rapporte à nami no kori, reste des vagues, qui désigne l'empreinte laissée par les vagues après qu'elles se sont retirées de la plage. Cela comprend à la fois la trace des vagues, ces sillons immatériels dessinés par les vagues sur le sable, et les algues, coquillages, morceaux de bois et galets abandonnés sur leur passage. Il n'y a ni raison ni logique à cette accumulation en dépôt, mais une fois qu'elle est là, elle s'est établie pour un temps éphémère. De nos jours, le mot s'appelle « nagori », le nom qui reste. Bien qu'il ne reflète pas l'origine du mot, ses caractères me semblent produire une image tout aussi évocatrice de Nagori. Nos émotions ne se déplacent pas aussi facilement. Si vives et réactives qu'elles soient, et sont bien plus lentes que notre corps à prendre congé d'un être ou d'un lieu. C'est un peu notre saudade japonaise, à ceci près que l'émotion dégagée est bien différente de celle-là. Elle porte une sorte de résignation, l'idée d'un destin qu'on ne saurait modifier. On abandonne une part de soi-même à la chose, au monde, à la beauté et au cœur de l'être aimé. Cœur qui fait l'expérience de Nagori est un cœur généreux, sinon courageux. Il ne craint pas de faire don de lui-même à ces petites choses infimes, pas forcément dramatiques, mais si fragiles et délicates qui composent notre vie.
Merci. Vous expliquez bien dans le livre Ryoko Sekiguchi que au Japon, on divise une saison en trois moments, hein, ou trois émotions, ou trois saisonnalités, qui serait donc un premier moment, un moment de jeunesse, et puis un moment de pleine maturité, et puis l'âge mûr qui correspondrait donc au Nagori, hein, quelque chose comme cette nostalgie de la séparation. Est-ce qu'il y aurait dans la culture japonaise, au fond, une forme de hiérarchie qui se serait établie entre ces trois saison dans la saison.
Je pense que en fait, surtout au niveau, disons littéraire ou bien artistique, c'est la notion de Nagori donc qui prime, parce que à la fois il s'agit de la séparation, mais en même temps, est-ce que justement en prenant l'exemple du coucher de soleil et donc le soleil n'est plus là, mais qu'il y a juste une lueur que qu'on contemple pendant quelques minutes, est-ce que ça veut dire la trace de quelque chose qui a disparu, ou bien, mais en même temps, le soleil n'est pas disparu, n'est-ce pas? C'est, on peut dire que c'est une sorte de présence, mais qui se manifeste autrement. Donc c'est aussi pour ça que je pense que Nagori a beaucoup intéressé à la fois les écrivains, les poètes ou bien les peintres, parce que qu'il est vraiment complexe et aussi fantomatique.
Justement, Daniel Sansu, j'imagine que c'est une notion qui ne peut intéresser, qui ne peut qu'intéresser un amateur de fantômes, cette idée de présence ou de à la fois de disparition et d'apparition presque dans un même temps ou dans un même lieu.
En effet, c'est vrai que présence-absence, c'est vraiment le statut du fantôme. Hein. Si on pense à ce que Derrida en dit dans Spectre de Marx, hein, c'est on est entre les deux. Et en écoutant et en lisant Ryoko, je me disais que cette année, il s'était passé quelque chose de particulier pour ce qui est du Nagori de l'été, parce que cette année, l'été n'en finissait plus. Et c'est vrai que au mois de septembre, il y avait encore beaucoup de soleil, beaucoup de chaleur, la sécheresse. Et je me demandais ce qui va devenir du Nagori de la saison d'été et des couchers de soleil et des photos qu'on peut prendre en fin de vacances, avec le changement climatique qui rend le Nagori interminable. Alors voilà, c'est une petite réflexion que j'avais, qui est pas tout à fait liée au fantôme, encore que le fantôme, c'est l'immortel, c'est celui qui ne s'arrête pas de revenir, hein, et donc il y a quand même un lien avec le cycle aussi dont vous parlez beaucoup dans Nagori.
Vous parliez tout à l'heure de la valorisation du Nagori dans le champ de la littérature. Est-ce qu'au fond, on pourrait imaginer que c'est bien la littérature qui aurait développé ou forgé cet imaginaire-là? Alors, celui du Nagori et puis peut-être plus généralement, évidemment, celui des saisons.
Je pense que oui. Je pense que oui, ce n'est pas... Parce que la sensibilité ne naît pas de nulle part. Et il faut bien qu'il y ait des mots, bien sûr, pour le dire. Donc c'est aussi pour ça que je pense que c'est la littérature précisément japonaise. Et en fait, ce vocabulaire employé dans la poésie qui a forgé notre sensibilité, il n'y a pas de doute.
Qu'est-ce que c'est qu'un mot de saison?
Il y a une règle pour écrire un haïku, il faut avoir un mot clé de la saison. Et donc, il faut toujours mettre dans ces 17 syllabes un mot en fait, qui serait, qui symboliserait une atmosphère d'une saison. Et donc il y a par exemple il y a haïku, ce n'est pas seulement comme ce n'est pas comme la poésie par exemple pour les Français, il y a beaucoup de Japonais qui le pratiquent et pour cela par exemple il y a un manuel, il y a un livre qui s'appelle Saijiki, donc qui est la liste des mots de saison que qu'on peut utiliser, qu'on peut mettre pour composer un haïku.
Il y en a combien?
je ne pratique pas de haïku, mais c'est vrai que il y en a beaucoup et surtout aussi en fait ça me fait réfléchir parce que est-ce que ce qui est dans cette liste de saisons est-ce que c'est la liste de saisons pour seulement les Japonais ou bien pour les Français? Si un Français veut composer un haïku, est-ce qu'on va utiliser cette liste-là? Est-ce qu'un pour un habitant de l'île de Okinawa dans le sud et de Hokkaido dans le nord, est-ce que la liste des saisons serait la même?
Donc certainement pas. Non. J'imagine. Donc le Nagori, c'est donc part de chaque saison. Alors nous en avons quatre, hein, au Japon aussi, même si cette base-là permet, en tout cas dans le calendrier traditionnel, pas moins de 24, voire 72 saisons. Plus il y en a, mieux c'est, écrivez-vous, un peu ironiquement. Cette valorisation, cette sophistication de la saison, qu'est-ce qu'elle pourrait dire de la culture et du temps japonais?
On dit que les Japonais ne montrent pas leurs émotions, donc très discret, très voilà. Mais je pense il y a une, bien sûr c'est vrai une partie, c'est-à-dire que les Japonais ne montrent pas leurs émotions face à quelqu'un d'autre. Dans les relations personnelles, je pense qu'ils sont plus discrets, timides. Mais face à la nature, je pense qu'ils sont mais comme ça, les bras ouverts, et que, qu'il leur arrive de pleurer devant les fleurs de cerisier. Et qu'il y a une sorte de... Non pas de personnification, mais que je pense qu'ils mettent les saisons au même rang que les êtres humains. Donc c'est quelque chose qui est vivant comme nous, en fait. Je pense que c'est à la fois c'est quelque chose qui nous entoure, mais aussi c'est chaque fois un être, ou bien des êtres, parce que donc la fin de printemps peut être le début d'été, mais qui nous accompagne comme un ami.
Alors, Nagori s'ouvre sur une conversation avec un chef dans un bistrot à Tokyo il y a quelques années. Un chef qui vous sert un plat de légumes qui vous semble être des légumes de fin de saison. Et comme vous vous en étonnez, il vous répond « Mademoiselle, je suis beaucoup plus âgée que vous et je ne sais pas si je pourrai encore goûter ce légume l'année prochaine. » Qu'est-ce qui vous a tant troublé dans cette réponse pour que vous en fassiez un livre ?
Parce que vous savez... c'est vrai que nous, on pense que, on espère que notre vie continue et que, qu'on pourrait revoir justement ces derniers jours l'année prochaine. Vous savez, on se dit, enfin, chaque fois, est-ce que je pourrais te voir et j'espère que je pourrais te voir l'année prochaine. Et donc, il y a c'est pour ça que je dis que c'est comme quelqu'un qu'on quitte et que qu'il y a une émotion et que et finalement en fait il y a un épisode après ça avec ce chef justement je ne le vois qu'une fois par an quand je suis au Japon et l'année dernière je suis rentrée le restaurant avait fermé et donc la cuisine a disparu.
Alors à propos de ce moment-là, Ryoko Sekiguchi tout particulier, hein, celui où, par exemple, on porterait à la bouche le dernier fruit de la saison. Vous citez dans votre livre un moment raconté par Pierre Soulages, ici même sur France Culture, hein, en août 84, au micro de Jean-Claude Bringuier. Et voici ce qu'il dit.
Ce qui m'intéresse dans les sons, bien sûr, c'est le timbre, enfin, tout ce qu'est un son. Mais aussi, c'est l'espace imaginaire que le son crée, dans la manière dont suscite, dans la manière dont il se développe. Et ce qui était très beau dans cette cloche de bronze perdue dans la campagne humide et dans la nuit, c'était la manière qu'elle avait de s'en aller dans l'espace comme ça dont le son avait de nous quitter et de s'en aller comme ça. Et nous avons assisté à l'office. Les prières étaient rythmées sur plusieurs cloches. Une qui ressemblait à un énorme grelot, une autre qui était comme un vase au fond, mais posée comme un vase avec l'ouverture vers le haut, et puis une autre plus petite. Celle qui était la plus grande avait un son beaucoup plus grave, et elle était frappée par un bâton entouré d'un chiffon, semble-t-il. Un chiffon, oui. La prière s'est terminée, et j'ai entendu... Et alors, pour se terminer, les paroles sont devenues de plus en plus lentes. Et elles se sont terminées avec... alors que le rythme était assez accéléré, le rythme brusquement est devenu très très lent. Pas brusquement, progressivement est devenu très très lent et s'est arrêté. Et j'ai associé cette manière-là au son de cette cloche dans la nuit qui nous quittait, qui s'en allait, et qui créait une immensité. Et comme cette fin de prière, elle suggérait une éternité. Rapport du temps et de l'espace aussi.
Qu'est-ce qui ferait de ce moment-là, décrit par Soulages, au fond, un moment similaire à celui du goût du dernier fruit de la saison ?
Déjà, je pense que c'est un cadeau que vous faites parce que en fait ce texte, je ne l'ai pas écouté. Donc, je l'ai lu comme c'était donc sa archive. Donc, je l'ai lu comme texte. Donc, c'est entendre sa voix, c'est quelque chose. Donc, c'est comme une sorte de revenant, n'est-ce pas? Donc là, par exemple, ce son de cloche. Et c'est en fait pareil. Je pense les derniers fruits que bien sûr que qu'on mange et puis après. Le aiguë reste un peu dans le palais, puis disparaît. Mais est-ce que qu'on peut dire que, qu'il a disparu parce que qu'il est ce fruit qu'il est en nous?
Est-ce que vous vous souvenez de la saveur justement de ce plat de légumes, hein, dont vous parlez en tout début, en ouverture de votre essai Ryoko Sekiguchi?
Ah oui, mais moi je n'ai pas beaucoup de mémoire et je pense que toute ma capacité de mémoire est concentrée sur les scènes autour de goût. Quand c'est quelque chose qui marque, je peux faire ressurgir comme une sorte de hologramme la scène, le détail, le goût, et je peux vous faire presque goûter.
Je vous en prie, je vous écoute.
Voilà. Et c'est qu'elle est, en fait, c'est un fruit qui est ichinomi, donc qui est une plante qui pousse au bord de l'eau et qui a une forme, qui a donné le shuriken, qui est, vous savez, le l'arme de ninja. Et parce que en fait c'était l'aliment que mangeaient les ninjas dans les forêts et qui était la source de protéines végétales, et que quand on ouvre l'écorce presque justement comme le fer un peu bordeaux foncé, apparaît la chair blanche comme la chair d'un bébé. Et on peut dire que c'est presque justement fade, que ça n'a pas de goût, mais ça a un goût de d'innocence.
Si je peux
Daniel Sansu, bien sûr.
Je suis personnellement fasciné par la cuisine japonaise. Enfin, j'ai fait qu'un séjour au Japon, mais j'ai eu la chance d'être invité par des collègues et de faire des expériences gastronomiques extraordinaires qu'on ferait pas comme ça de touriste, parce qu'il faut vraiment savoir où manger quoi, etc. Et alors, il y avait je prenais des notes toujours frénétiquement dans mon carnet pour essayer aussi de capter les noms des plats. Parfois, c'est pas des goûts très forts, mais tellement subtil que on ne sait pas comment les décrire, hein. Et alors on peut juste faire des énumérations. Et puis cette cuisine liée à la saison. Alors moi j'ai pris quelques notes. Par exemple dans un restaurant j'ai eu affaire j'ai mangé une délicieuse salade aux poissons poissons transparents. Et on m'a dit c'est de saison. Ou alors il y avait aussi au menu des crabes entiers sortis de leur carapace. Et on m'a dit mais c'est parce que c'est la saison où ils muent, et donc on n'a pas à leur faire violence, on les prend comme ça. Et tout ça est quand même tout à fait extraordinaire. Et je comprends qu'on en fasse des livres, et parce que ça paraît inépuisable, hein, souvent indéfinissable.
Est-ce que le fait de manger, d'ailleurs, Ryoko Sekiguchi, ne relèverait pas d'une certaine façon aussi de Nagori? C'est-à-dire cette temporalité toute particulière qu'est celle de la cuisine.
Oui, bien sûr, parce que moi je pense toujours que la cuisine est un acte qui peut être assez cruel. Dès qu'un plat apparaît, il est vu à disparaître. Et chaque fois, donc, qu'on fait réapparaître, et aussi, donc, bon, on mange ce qui était vivant, et on fait peut-être le métier de cuisinier, ou bien le métier de nous-mêmes qui faisons la cuisine, c'est de redonner l'énergie aux ingrédients, donc, en titre du vivant, pour que nous puissions continuer, justement, à vivre, mais en même temps, c'est cela qui nous fait avancer dans le temps, c'est-à-dire d'un pas de plus vers la mort. Et je pense que c'est le grand dilemme, et c'est ça ce qui est énigmatique et passionnant dans la cuisine et dans le fait de manger.
Comment relier alors cette énigme au temps de l'écriture? Parce qu'on a le sentiment, vous qui nouez les deux, on a le sentiment que ces deux champs-là appartiennent à des temporalité radicalement différente.
Ah oui, c'est l'opposé, je pense, parce que quand on écrit, quand même, on essaye de Enfin, on ne pense pas qu'un livre va disparaître en 5 minutes, n'est-ce pas? Et à la fois, donc, au début, donc, j'ai commencé à écrire sur les goûts pour que ces goûts éphémères restent un peu plus dans ce monde, et les mémoires éphémères restent dans ce monde après la catastrophe de Fukushima, par exemple.
Alors, ouvrir justement aux fantômes sa table, hein, ou préparer des repas pour les morts, enfin pour les morts, pour les fantômes, faudrait-il dire plus justement, comme vous le faites parfois, comme on le fait beaucoup au Japon, Ryoko Sekiguchi, ça pourrait avoir affaire, j'imagine, hein, avec la notion de Nagori.
Oui, parce que à la fois... donc j'organise parfois des dîners ou bien des événements, c'est aussi, ça me permet d'être vraiment dans l'éphémère abstrait, parce que ce genre de soirée, c'est seulement les gens qui ont assisté qui peuvent garder le souvenir. Donc de toute façon, je pense qu'un plat qu'on fait, même si c'est un plat enfin créé, imaginaire ou bien créatif, Ça a toujours la trace de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Une pensée de quelqu'un d'autre. Donc, chaque fois que qu'on mange un plat, il y a plusieurs mains, plusieurs pensées. On mange les fantômes. C'est quelque chose que qu'on fait, justement, avec le gâteau de sa grand-mère. Et chacun a le gâteau de sa grand-mère et essayer de refaire ce gâteau en étant « Ah non, c'est pas aussi bon que celui qu'elle avait fait. » Mais et c'est comme Nagori, c'est-à-dire que je pense que c'est une notion que les Français aussi ressentent, partagent, simplement il n'y avait pas de nom.
Alors effectivement, c'est ritualisé au Japon, hein, notamment au moment de l'Obon, hein, qui est donc ce moment où on fête les morts en été au Japon, et où donc on accueille les morts, où on fait venir les fantômes. C'est la nourriture qui les fait revenir. Les fantômes ont faim.
Moi, je voudrais bien croire comme ça. Bon, bien sûr, ils reviennent parce que c'est leur congé annuel. Mais mais en même temps, je pense que je voudrais bien croire que c'est ça le moment de le plaisir, le moment de partager les et en fait non seulement au bon, mais moi je pense que tous les jours on partage les plats avec les morts 3 fois par jour en faisant la cuisine. Et c'est ça qui est extraordinaire de notre vie quotidienne.
Daniel Sansu, j'imagine que le repas partagé avec les morts, avec les fantômes, est un motif récurrent, en littérature notamment.
Ce qu'on peut dire, c'est que dans l'Antiquité, il s'agissait de nourrir les morts pour qu'ils ne reviennent pas. Hein. Donc on leur fournissait à manger, c'était plutôt pour les tenir à distance. Mais ce que vient de dire Ryoko m'a fait penser à une autre chose, le rapport des morts en été, le rapport des morts à l'été. Hein. Nous, on associe plutôt les morts à l'hiver, novembre, etc. Et quand j'étais au Japon, on m'a parlé un peu du théâtre No, et quelqu'un m'a dit, mais le théâtre No, qui évidemment met en scène beaucoup de fantômes, on fait les représentations de ce théâtre en été parce que ça fait frissonner et comme il fait très chaud en été, ça rafraîchit les auditeurs, les spectateurs. Donc voilà pour ce qui est des fantômes. Sinon, j'espère être invité un jour à un repas spirit organisé par Ryoko.
Elle opine.
Apparemment, on ne fait pas seulement tourner les tables, mais on peut faire tourner les morts sur les tables ou les plats en rapport avec les morts.
Avec plaisir.
Mais prenons date.
Mais alors, s'il y a une petite bizarrerie, c'est peut-être, j'ai oublié de mentionner que Daniel Sansu, s'il est avec nous par la voix, il est loin de nous puisque vous êtes en duplex depuis Lausanne. Quand est-ce que vous avez commencé à les interroger, Ryoko Sekiguchi, les fantômes?
Je pense que c'est là-dessus que je suis poète japonaise, parce que ce n'est pas une exception. Votre question m'est assez étrangère, dans le sens où c'est comme si on vous dit, alors quand est-ce que vous avez pensé à l'amour, par exemple, ou bien de la... Vous voyez, c'est aussi naturel, parce que les fantômes sont là. La littérature japonaise est vraiment nourrie de fantômes, donc nous, c'est comme si... Voilà, comme les plantes. Donc, C'est normal, donc les plantes sont là, les fantômes sont là dans ce monde, donc c'est normal que qu'on y pense.
Et on les emporte, hein. Qu'est-ce que vous avez fait de vos fantômes en arrivant en France?
C'est un thème que, oui, qui m'intrigue. Est-ce que les fantômes voyagent, Daniel?
Je me suis surtout intéressé, pour ma part, au déplacement des vampires. J'ai un chapitre de mon livre « Vampires, fantômes et apparitions » qui montre que les vampires au XIXe siècle se déplacent comme les touristes anglais. Hein, ils font du tourisme, mais du tourisme sanglant. Alors pour ce qui est du déplacement des fantômes, bien évidemment, parce que de toute façon, les fantômes sont dans l'ubiquité. Donc ils sont toujours partout. Ils sont ici, ailleurs, en même temps. Hein, ça fait partie de leur nature ontologique, justement. Hein. Donc voilà, c'est une donnée de base, les fantômes voyagent.
Un extrait du trio numéro 5, opus 70 de Beethoven, le bien nommé Esprit, interprété par Dupré, Barenboim et Zuckerman, hein, comme entrée en pneumatologie dont vous pourriez peut-être, Daniel Sansu, nous rappeler brièvement la définition telle que vous l'avez engagée alors, dans vos études universitaires et d'une certaine façon actualisée dans le journal d'un amateur de fantômes que vous faites paraître.
Alors la pneumatologie littéraire, ça vient du grec pneuma, le souffle, l'esprit, d'où le pneumatique, la pneumonie, etc. Et en fait, c'est la discipline qui s'occupe des souffles, des esprits. C'est un terme qu'on rencontrait au XIXe siècle. Il y a plusieurs ouvrages de pneumatologie, des ouvrages qui s'occupent des esprits, des revenants. C'est aussi une discipline de la philosophie. Malebranche parle de pneumatologie, puisqu'il s'occupe de...
branche de la métaphysique.
De la métaphysique, oui. Et puis de la théologie. Les théologiens qui s'occupent du Saint-Esprit font de la pneumatologie. Donc c'est un terme que j'ai réactualisé, que j'ai sorti, exhumé du XIXe siècle pour l'appliquer à la littérature.
Qu'est-ce qui ferait, puisqu'on en est justement à ce mot qui était si courant au XIXe siècle, qu'est-ce qui ferait de ce XIXe, alors que vous avez largement arpenté, hein, puisque c'est quand même le champ qui vous occupe le plus, qu'est-ce qui ferait de ce siècle le siècle le plus accueillant pour les fantômes?
Oui, il y a vraiment beaucoup de raisons. La première raison, c'est d'abord le goût du XIXe siècle pour le fantastique. C'est le grand siècle des fantastiqueurs, comme on dit à l'époque, hein, des écrivains qui, à la suite de Hoffmann, puis plus tard de Poe, écrivent des nouvelles fantastiques, parce qu'il y a une demande du public. Hein, le fait aussi que la presse, l'imprimerie s'est développée, on a beaucoup de revues, beaucoup de quotidiens qui demandent ce genre de textes pour attirer les lecteurs. On peut dire plus largement aussi que au XIXe siècle, bon, avec l'industrialisation, la rationalisation, l'intellectualisation, hein, là je pense à ce que disait Max Weber, il y a un certain désenchantement qui s'installe et d'où la volonté de réenchanter le monde, hein, comme on le dit maintenant, puisqu'on peut vraiment faire des parallèles avec notre époque. D'autre part, il y a aussi un nouveau rapport à la mort. J'ai fait allusion tout à l'heure. Hein, Philippe Ariès montre bien qu'on passe à la mort qu'il appelle ensauvagée, c'est-à-dire on a peur de la mort, alors qu'elle était plus familière à l'âge classique, avec des rites, des veilles, un deuil qui prenait le temps de se développer. Hein. Et puis il y a ces événements comme au milieu du siècle, la naissance du spiritisme. Hein. Alors le fait qu'on se mette à communiquer par les table tournante avec les esprits, c'est pas un hasard que ça se passe au 19e, c'est aussi le
ça commence aux États-Unis, hein.
Ça commence aux États-Unis. Le 19e est le siècle de la communication, hein, la machine à vapeur, enfin les bateaux à vapeur, le train, puis la communication par le télégraphe, plus tard le téléphone, et bon, on se met à communiquer avec les morts, c'est pas un hasard, hein. On pourrait parler aussi de l'affaiblissement des croyances, qui fait qu'on rentre plus en contact, on n'attend plus passivement, on prie plus pour les morts, mais on cherche à entrer en contact avec eux pour avoir un rapport plus direct avec eux, etc. Enfin, il y a vraiment beaucoup de raisons que j'ai explorées dans mon premier essai que vous avez cité, « Fantômes, esprits et autres morts vivants ».
Vous écoutez France Culture, la compagnie des poètes, par Manu Farid.
Alors là, vous vous en tenez, pour ce qui est du journal d'un amateur, de fantômes, vous vous en tenez donc aux fantômes, encore faudrait-il le définir, j'imagine. Il faudrait plus d'une heure pour faire une sorte de taxinomie des ombres, mais de quoi parle-t-on quand on parle de fantômes ?
Très pragmatiquement, dans ce journal, je raconte des histoires qui m'ont été rapportées, que je lis dans des ouvrages, que je vois dans des films. Et donc, il s'agit là de tout ce qui est de l'ordre de la revenance, des morts. Alors, on peut distinguer, si vous voulez, je fais ça dans mes essais, on peut catégoriser les fantômes, ou disons les morts vivants en deux grands ensembles. Hein. Il y a les revenants encore, c'est-à-dire que les revenants qui reviennent avec leur corps, pour reprendre un terme de Don Calmet. Alors là, vous avez les vampires, les zombies, hein, ils reviennent avec leur corps, un corps décomposé dans le cas des zombies. Dans le cas des vampires, c'est un corps qui demande à être réalimenté par le sang des vivants. Donc ça, c'est les revenants encore. Et puis vous avez tout le reste, c'est-à-dire les fantômes, les esprits, ces êtres qui reviennent de l'au-delà, ces entités qui reviennent de l'au-delà et qu'on peut entendre par des bruits, des voix, des raps, dans le cas des tables parlantes, tables tournantes ou les esprits frappeurs, qu'on peut aussi visualiser. Et c'est, alors j'aurais peut-être dû effectivement vous répondre, commencer par là, le fantôme c'est ce qu'on voit, fantasma, fantagma en grec, c'est la vision, et spectre aussi, qui est un synonyme. Spectre, c'est spectrum, c'est aussi la vision. Hein. Donc le fantôme, il est plutôt de l'ordre du visuel.
Alors au gré de ce journal, hein, donc un journal qui s'ouvre en 2011 et s'achève en 2017, un journal un peu à trous, un petit peu irrégulier, donc on vous suit, alors vous y collectez effectivement des histoires, parce que j'imagine qu'avec le temps vous êtes un peu devenu une sorte de réceptacle à histoire de fantômes, mais que vous allez vous-même chercher, et puis on vous suit surtout dans vos lectures nombreuses, hein, on va revenir sur ce lien entre les fantômes et la lecture, on vous suit au cinéma, on vous suit allant visiter une exposition, le tout toujours en lien, donc toujours en amateur, hein, de fantômes. D'ailleurs, ce terme d'amateur, qu'est-ce que ça dit de votre position à vous ? Parce que c'est un terme qui est important.
Je crois que c'est la volonté de prendre aussi des distances par rapport au discours académique, au discours scientifique que je tiens dans mes essais. J'aime bien la notion d'amateur, de dilettante, hein. C'est quelque chose de très stendhalien, puisque je suis aussi stendhalien, et j'aime bien aborder les choses de façon un peu libre et les laisser venir à moi, comme vous l'aurez vu dans ce journal. Ce journal, en fait, il est fait de tout ce qui se présentait et que je ne pouvais pas caser dans les tiroirs bien compartimentés de mes recherches. Donc je travaille sur le 19e, mais dans le journal d'un amateur de fantômes, c'est surtout des lectures contemporaines, 20e et contemporain.
Avec une très forte présence de Quignard.
Oui, bah comment éviter de parler de Pascal Quignard ? C'est quand même l'auteur qui actuellement parle le plus des fantômes, j'imagine, je pense. Hein. Mais il y en a beaucoup d'autres, bien sûr, mais Quignard a une position importante dans ce paysage-là.
Alors justement, au gré des jours, donc au gré du journal, hein, qui n'est pas un journal intime, hein, vous l'expliquez bien, en avant-propos, au tout début, au gré donc des jours, on va croiser toutes ces histoires, on va vous voir, comme je le disais, au cinéma, et pas seulement, on vous suit aussi, regardant une série en particulier, c'est celle-ci. C'est le générique des Revenants, hein, la série de Canal+, créée par Fabrice Gobert en 2012. Hein. Que sont, Daniel Sansu, les fantômes aujourd'hui devenus ? À quoi est-ce qu'ils nous servent aujourd'hui ?
Ouf, quelle question ! Quelle vaste question !
Alors je vais la dire moins fort, plus petite, comme ça, une petite réponse.
Justement, là, c'est l'intérêt de cette série, c'est que on ne sait pas pourquoi les fantômes reviennent et ils ne savent pas eux-mêmes pourquoi ils sont là. C'est ça qui fait tout le trouble de cette série. Hein. Donc, les Revenants, c'est une série très intéressante parce qu'elle est à la fois dans le familier. Hein, des paysages reconnaissables, des gens qui vivent une vie de tous les jours, et en même temps, on est vraiment dans quelque chose de très très étrange, très effrayant même. Voilà comment je peux répondre à votre vaste question.
Je vous remercie. Vous parliez, Daniel Sansu, de ces histoires, hein, qu'on vous raconte, qu'on vous rapporte et que vous rapportez dans le journal. Hein. On vient vous raconter, chacun vient vous raconter ses histoires de fantômes. Alors, ça n'est pas tout à fait juste, il n'y a pas que, hein, puisqu'au centre du livre, vous relatez une expérience personnelle vécue en janvier 2003, mais rapportée bien plus tard, que vous rapportez d'ailleurs non sans avoir préparé le lecteur à sa venue, c'est-à-dire que vous annoncez comme ça régulièrement que le récit de cette expérience personnelle va arriver, et donc cette expérience personnelle arrive exactement au centre de votre journal. Vous êtes dans une salle de sport, et alors que vous glissez votre badge, hein, j'imagine c'est comme ça que ça s'appelle, votre badge dans l'ordinateur de la salle, c'est le prénom de votre père, disparu quelques mois plus tôt, qui apparaît aux côtés de votre nom par trois fois, avant évidemment que ne réapparaisse votre prénom dès que vous appelez un témoin. En quoi est-ce qu'une telle expérience serait une sorte finalement d'expérience type ou d'expérience canonique de l'expérience du fantôme ?
Je pense que c'est une expérience type parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire, je n'ai pas de solution. Il y a deux explications possibles. Soit ce qui m'est arrivé là, c'est-à-dire l'apparition de mon père, du nom de mon père décédé sur cet écran, est une apparition, une véritable apparition, c'est-à-dire une manifestation surnaturelle d'un revenant qui était mon père. d'un être de l'au-delà. Et alors les fantômes existent, et alors les revenants peuvent se manifester dans notre monde. Ou alors, autre solution, j'ai halluciné. J'ai halluciné ce message, une hallucination plutôt longue, et puisque c'était une clé que j'introduisais. C'est la clé qui met en route votre programme, qui relève vos performances aussi, si on peut parler de performances dans mon cas. Et donc, deux fois j'ai retiré la clé, je suis allé plus loin dans le menu et le nom de mon père apparaissait toujours. Et donc, mais tout ça peut s'expliquer par une hallucination. Quand je repense à cette scène, j'ai vraiment l'impression que c'était pas une hallucination, que c'était trop constant, que c'était trop long pour être une hallucination. Mais on peut toujours penser que j'ai halluciné, parce qu'il peut y avoir des hallucinations. Il y a des hallucinations de masse aussi. Je n'ai pas d'explication. Il y a deux possibilités, et c'est exactement ce qui arrive dans tous les phénomènes surnaturels. Donc cette impossibilité de trancher. Il y a les tenants du surnaturel qui vont dire, voilà la preuve que les fantômes existent, et les sceptiques diront, mais non, tout ça, une affaire d'hallucination. Et ça, c'est typique dans tous les récits littéraires, c'est ce qui se produit, littéraire ou pas d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs la fameuse hésitation fantastique dont a parlé Tsvetan Todorov, et qui est vraiment une catégorie très importante pour parler du fantastique.
Ryoko Sekiguchi ?
Oui, alors en fait c'est ça ce qui m'a assez intriguée dans votre histoire et ce que vous venez de dire donc sur la série, et que les fantômes sont encombrants. Et en même temps, par exemple, il y avait après donc la catastrophe de Fukushima, et puis aussi des vagues, donc des tsunamis qui ont emporté des dizaines de milliers de personnes. Pendant longtemps, enfin même aujourd'hui, il y a eu des apparitions d'histoires de fantômes. Donc là, en fait, sur place, il y a beaucoup de gens qui racontent « Ah, j'ai vu le fantôme, etc. » et qu'il y avait, enfin, dans le taxi, quelqu'un est monté et qu'il a disparu, etc. Et moi, je pense, en fait, dans cette région et qui, finalement, était dévastée et qu'il n'y avait plus de personnes, donc... Ce n'est plus, disons, justement, il y a le terrain vague où il y a beaucoup de place. Bon. Alors, c'est une sorte de, justement, de combler peut-être la place qui est devenue vide, que les fantômes apparaissent, et que, est-ce que votre histoire, ce n'est pas une, on ne cherche pas une explication, mais peut-être il y avait dans votre vie une place à combler par le nom de votre père.
Daniel Sansu, est-ce que c'est le moment peut-être que je vous laisse entre vous, je ne sais pas, pour poursuivre cette conversation?
En effet, on peut continuer à parler entre nous. Ryoko, justement, dans mon journal d'un amateur de fantômes, je parle de Fukushima. Il y a plusieurs entrées.
Des cités fantômes aussi.
Voilà, justement. Et ça montre aussi, ça a à voir avec ce vide dont vous parlez, ce terrain vague en lequel a été transformée la région de Fukushima. Et on a, alors, si vous voulez, le fantôme, il est à la croisée de ce vide à remplir, et des morts vivants, des morts qu'on souhaite qu'ils réapparaissent, et puis aussi de la métaphore, parce que quand on dit cité fantôme, c'est une métaphore,
bien
ça
sûr,
veut dire
hein,
une cité. Donc, et là, c'est ça qui est important dans le phénomène des fantômes, enfin cet univers des fantômes, c'est que c'est un univers qui a une forte empreinte sur notre imaginaire. Ça, c'est très séduisant, le fantôme. On le trouve vraiment à toutes les sauces. Je constate que ce que j'écris a un impact, justement parce que ça comble quelque chose en nous, une demande en nous. Une demande, on aimerait bien savoir quand même.
Et d'ailleurs, quand vous dites amateur de fantômes, c'est pas seulement dans le sens de non-professionnel dilettante, mais aussi donc celui qui aime et celui qui est attiré par les fantômes, vous, Daniel, non ?
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, mes fantômes, ce ne sont pas des créatures maléfiques ou diaboliques. Hein. Même dans mes essais, cet aspect-là du fantôme ne m'intéresse pas trop. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les mortes amoureuses qui reviennent dans les récits du XIXe siècle, comme ceux de Théophile Gautier, Aria Marcella, Spirit. Hein. Ces femmes qui n'ont pu se faire aimer de leur vivant et qui reviennent hanter les hommes qui auraient pu les aimer. Il y a beaucoup d'histoires qui racontent ça hein, au 19e. Ça part de la fiancée de Corinthe, de Goethe. Encore que Goethe soit pas un bon exemple parce que ça se finit mal. Et quand même, ces femmes, ces mortes amoureuses sont souvent quand même, ont une dimension vampirique. Hein. Mais ce qui m'intéresse, c'est quand même, dans le fantôme, il faut pas oublier que le fantôme, c'est celui qui revient pour être aimé parce qu'il aime les vivants et parce que les vivants ont envie de le revoir. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'amour dans la relation au fantôme. Et vous avez tout à fait raison de voir dans le terme amateur, de voir aussi l'amour des fantômes se dessiner.
Quand vous dites, Daniel Sansu, celui qui revient pour être aimé, au fond, c'est aussi du livre hein, que vous parlez.
Ah oui, alors c'est une dimension importante de ce journal.
C'est le portrait d'un lecteur, ce journal.
Voilà, il est question d'apparition, mais il est aussi question de disparition. Alors il y a beaucoup de livres que je lis, que je cite aussi, mais il y a aussi un fil conducteur qui est la disparition du livre. La disparition du livre imprimé au profit du livre numérique, hein, la digitalisation, etc. Et donc ça, c'est quelque chose... Alors, là, on serait dans le Nagori. Hein. Je suis nostalgique d'un univers qui m'est familier, dans lequel j'ai grandi et que j'ai défendu que je vois disparaître peu à peu. Par exemple, la fermeture des libraires d'anciens, des boutiques du livre. Bon, tout se passe sur Internet. On peut trouver des livres anciens sur Internet. J'en suis tout à fait conscient. Mais enfin, c'est un rapport charnel physique au livre qui disparaît. Et de ce point de vue-là, je sais que Ryoko est de mon avis, puisqu'elle parlait de sa famille. Toute sa famille est dans le métier du livre, dans les métiers du livre. Son grand-père était éditeur. Et elle a parlé, lorsque nous nous sommes rencontrés à la Chaux-de-Fonds, au Club 44, elle parlait de son amour pour l'objet matériel, livre. Et là, c'est peut-être pas ce sur quoi vous vouliez m'aiguiller en me parlant.
Non, en parlant de fantômes. Non, c'était tout simplement le lien. Mais bon, en même temps, il est tellement évident, mais il est peut-être bon de le rappeler aussi. Hein, ce lien, justement, entre les fantômes et la littérature elle-même. C'est-à-dire, je parle pas du fantôme comme motif, hein, mais du fantôme qui serait d'abord dans les bibliothèques, de la lecture elle-même, de l'acte de lecture qui serait en lien, d'une certaine façon, avec la revenance.
Toute la littérature fait parler des morts, ça c'est sûr. Soit on a des livres de morts autour de nous dans notre bibliothèque, et puis, une figure de rhétorique comme la prosopopée fait parler les morts, hein, donc il y a vraiment un investissement de la revenance dans la littérature qui est évident. J'y consacre d'ailleurs un chapitre dans mon premier livre Fantôme, Esprit et autres morts vivants, en mettant en rapport l'écriture, la littérature et les fantômes.
Alors, peut-être juste une dernière question sur cette forme du journal que vous avez utilisée cette fois et qui est donc qui vient rompre hein, avec vos travaux universitaires. Vous en expliquez d'ailleurs, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, qui était une façon de sortir de ce registre-là, qui est aussi une façon de prendre la parole au jeu, ce qui est un peu aussi une nouveauté pour vous. J'imagine que c'est pour ça que vous l'avez fait, même si ça n'est pas un jeu intime. Hein, vous expliquez sur le modèle du journal. Et on a le sentiment, enfin, je me trompe hein, peut-être, mais pour revenir à cette expérience personnelle que vous placez au centre, qu'au fond, ce journal est là pour pouvoir raconter cette histoire.
Vous avez très bien vu que c'est le centre du livre, et je suis heureux que vous en soyez rendu compte. C'est sûr que cette histoire m'a bouleversé. Alors, étant un académique, je choisis des objets d'étude. Il y a eu la parodie, il y a eu les fantômes. Pour moi, c'est des objets d'étude comme un autre. Mais à un moment donné, vous êtes tout à coup, il se trouve que vous êtes rattrapé par la réalité, si on peut parler de réalité. Et l'objet d'étude vous interroge, vous touche personnellement. Cela dit, nos objets d'étude nous touchent toujours personnellement. Il y a toujours des sentiments, de l'émotion dans ce sur quoi on fait des recherches. Mais là, effectivement, c'est une expérience. Il y a un avant et un après. C'est comme si tout à coup, ce que j'ai fait était justifié par une expérience tout à fait étonnante, fondamentale, qui ne s'est pas reproduite d'ailleurs et qui sera certainement unique. Qui est unique ?
Daniel Sansu, Ryoko Sekiguchi, merci à tous les deux. C'est la fin de cette émission, ou presque, puisque je vous laisse la terminer entre vous. Et sans moi, donc vous à Paris, Ryoko Sekiguchi, et vous à Lausanne, Daniel Sansu, comme deux esprits, sans corps. Donc. Alors, bon après-midi à vous, à toutes et à tous.
Alors, Daniel, c'est assez drôle de parler avec vous comme ça, en duplex, parce que c'est vrai que je vous entends et je ne vous vois pas. Et bon, puisque je vous ai rencontré, on s'est rencontré il y a 2 semaines, je sais que vous existez, mais sinon, si on dit que vous êtes un fantôme, bah, peut-être que je croirais aussi, n'est-ce pas?
Vous voulez me transformer en fantôme?
Non, mais peut-être que moi je peux être fantôme moi aussi, pour vous, non. Parce que vous ne me voyez pas.
Mais vous voyez, je parlais de surnaturel, il est question, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais il est beaucoup question dans mon journal de sérendipité.
Oui.
Donc ces choses, ou de coïncidence plus simplement. Bon, on ne va pas parler de la sérendipité, c'est un autre problème. Les coïncidences extraordinaires, les hasards objectifs,
ouais,
je les collectionne. Il y en a beaucoup dans mon livre. Et vous avez été l'objet d'une de ces coïncidences. Parce que j'ai reçu le même jour où je recevais le mail d'invitation à participer à cette émission que nous faisons par Thierry Beauchamp. Il me parlait de vous et de votre ouvrage. Je dois avouer que je ne connaissais pas vos livres. Je les ai lus depuis avec beaucoup de plaisir. Le même jour, je reçois un mail, mais vraiment le même jour, à 1 heure ou 2 d'intervalle, d'une doctorante que vous connaissez, je crois, Apolline Bréchoteau. Apolline Bréchoteau, ça vous dit quelque chose?
Oui, bien sûr.
Eh bien, qui me dit qu'elle aimerait faire une thèse avec moi qu'elle veut faire aussi un travail de création et qu'elle s'inspirerait de Ryoko Sekiguchi. Donc le même jour. Et puis 2 jours après, je trouve sur Facebook l'information que vous allez venir dans mon Jura, là, en Suisse, à Delémont et à La Chaux-de-Fonds. Et donc, quelques jours après, vous arrivez en chair et en os. Et donc, je trouve qu'il y a là une concomitance d'événements qui est de l'ordre presque du fantastique.
Ça, c'est vrai, ça.
Vous l'accorderez.
Quelle serait la prochaine incidence, coïncidence pour nous?
Ben, on verra lors du dîner spirit.
Oui, peut-être avec plaisir.
With the beat forever in our
La Compagnie des Poètes, c'est vendredi prochain, même heure, même endroit. Merci à Thierry Beauchamp pour la préparation, à Cédric Chatelus pour la technique à Paris et à Gilles Ozaman à Lausanne à la radio-télévision suisse. Merci à François Connac pour la réalisation, à Daniel Sansu et à Ryoko Sekiguchi. Vous trouverez toutes les actualités de nos invités du jour sur le site de l'émission, à réécouter ou podcaster sur franceculture.fr. À 17h, vous avez rendez-vous avec le magazine de la rédaction, mais tout de suite, c'est l'heure, enfin, de la méthode scientifique par Nicolas Martin.